Philosophie de la laïcité avec le philosophe Jacques Bouvresse, auteur de « Peut-on ne pas croire ?», un livre sur la vérité, la croyance et la foi, publié aux éditions Agone. Cet entretien avec Jacques Bouvresse est l'occasion de décrypter le discours de Nicolas Sarkozy sur l'Église, tout en évitant, bien sûr, l'anti-sarkozisme primaire.
Durkheim pensait qu'on pourrait progressivement arriver à se passer des religions traditionnelles, si vous voulez remplacer ça par quelque chose qui mériterait d'être appelé la religion de l'humanité. C'est-à-dire, en gros, on pourrait imaginer que les religions instituées soient remplacées progressivement par une espèce de religion rationnelle, c'est une religion appuyée sur la défense de valeurs qui sont des valeurs de la raison, hein, mais auxquelles il n'est pas interdit d'attribuer une certaine connotation religieuse, ce que je crois Durkheim acceptait tout à fait de faire. Mais il n'y a aucun doute sur le fait qu'il pensait que les religions traditionnelles reposent sur une illusion. Hein, c'est-à-dire que dans la mesure où, comme il le dit dans une formule un peu brutale, la société c'est Dieu, il veut dire par là que le respect que nous manifestons envers cette autorité qu'on appelle Dieu, est en réalité le respect dont le véritable objet est la société elle-même. Hein. Tout en disant, il le dit ça, il dit très clairement, hein, qu'il faut toujours une religion, hein, de quelque espèce que ce soit. Il dit aussi très clairement qu'il est très probable que les religions de type traditionnel vont devenir inutiles et seront supplantées progressivement par des religions de l'espèce que j'ai appelées rationnelles. Hein. Mais encore une fois, Je ne souhaite pas mettre en cause directement l'idée qu'il se pourrait que pour vivre ensemble de façon à peu près, dans des conditions à peu près acceptables, nous ayons besoin d'un élément, hein, la présence d'un élément qui pourrait être qualifié de religieux soit requise. Hein. Ça ne me gêne pas à partir du moment où on est prêt à éviter l'erreur que Guéhenno reproche aux représentants des religions traditionnelles, hein, c'est-à-dire leur tendance à dire « nous sommes les seuls qui soient véritablement religieux ». Et en général, ils tirent de ça la conséquence qu'ils sont les seuls à pouvoir se présenter comme les défenseurs de la morale au sens propre du terme. Hein, ce sont des gens à qui le président de la République vient d'apporter récemment sa caution, comme vous savez, quand il a dit qu'au fond, pour avoir une morale au sens propre du terme, il faut avoir une religion. Il semble considérer qu'il ne peut pas y avoir de morale sans un fondement religieux. Hein. Et il entend par là un fondement religieux, pas au sens large, mais au sens traditionnel, puisqu'il a dit, il est allé jusqu'à dire hein, que l'instituteur ne pouvait pas remplacer le prêtre. Ça, c'est une illustration tout à fait typique de ce qui irritait particulièrement Guéhenno, hein, c'est-à-dire l'idée qu'on nous dit, premièrement, il faut une religion, et deuxièmement, il n'y a que nous qui puissions la fournir. Alors, on peut tout à fait répondre à ça que deux choses. Ou bien, on peut avoir une morale rationnelle, laïque, qui n'a aucun besoin de s'appuyer sur une base religieuse, ce que je crois, ça c'est la première chose qu'on peut répondre. Puis si on veut aller plus loin, on peut dire, cette morale-là, après tout, on peut aussi lui attribuer un caractère religieux. Mais ça ne, indépendamment de toute espèce de référence et de dépendance par rapport à une religion de type classique, hein, une religion instituée.
Alors, Nicolas Sarkozy énonce, lui, un discours dit de vérité. Il continue à le faire, il l'a beaucoup fait pendant sa campagne. Et sa rhétorique est imprégnée de références chrétiennes. C'est un exemple de recours aux religieux.
Alors, oui, il se trouve que dans le livre, j'ai fait référence à un livre pour lequel j'ai une certaine estime, donc le livre de Georges Corme, qui porte justement sur, sur le phénomène dont nous avons commencé à parler tout au début, hein, c'est-à-dire ce prétendu retour du religieux, qu'il considère lui comme étant plutôt un recours au religieux. C'est-à-dire, il pense qu'en fait, ce à quoi on assiste, c'est pas tellement, même peut-être pas du tout, un retour du religieux au sens propre du terme. C'est plutôt une tendance à utiliser la religion à des fins politiques, hein, comme ça se manifeste aussi bien aux États-Unis, hein, où pas seulement la religion, d'ailleurs là c'est vraiment le fondamentalisme religieux qui est revenu au premier plan, qui a recommencé à jouer un rôle tout à fait crucial dans un pays qui est supposé être quand même le paradigme de la modernité, hein, c'est le pays scientifiquement et technologiquement le plus développé au monde. Et il y a donc ce phénomène sur lequel Debré lui-même insiste, hein, comment expliquer que, par exemple, les derniers présidents des États-Unis se soient sentis quasiment obligés, soit d'insister sur cet aspect, Jimmy Carter l'avait fait, Bush l'a fait, etc. Et même l'actuelle campagne, hein, pour la présidence des États-Unis est aussi, peut-être de façon moins marquée, mais enfin, on voit bien que la religion y est fondamentalement présente. Jusqu'ici, en France, on avait quand même échappé à ça. Hein. Grosso modo, le pouvoir politique observait lui-même des règles de neutralité et tendait à respecter scrupuleusement la laïcité. Et là, on est sorti de cette période-là, on a assisté à quelque chose de tout à fait inédit, qui m'a moi-même beaucoup surpris, bien que dans ce livre, précisément, je me sois occupé en grande partie de réfléchir sur ce problème. Je ne m'attendais absolument pas, si vous voulez, à ce qu'on voit tout d'un coup le pouvoir politique escalité, hein, en tant que tel, venir au secours de ce prétendu retour du religieux. Je dis prétendu parce que je pense que, à bien des égards, ceux qui affirment ce genre de choses, ceux qui parlent d'un retour du religieux, se font des illusions sur ce qui se passe réellement. Mais en tout cas, ce à quoi je ne m'attendais pas, si vous voulez, c'est à voir le pouvoir politique au plus haut niveau sortir de cette position de neutralité. Donc on a été confronté à une situation qui est quand même assez sidérante, c'est-à-dire un président de la République qui se transforme pratiquement du jour au lendemain en philosophe de la morale et de la religion, ce qu'on n'avait jamais vu non plus jusqu'à maintenant quand même. Aucun président de la République, un président de la République pouvait à l'occasion se permettre d'exprimer des opinions personnelles, mais il ne se serait pas permis de nous infliger sa philosophie de la morale et de la religion, ce qui est pourtant ce qui vient d'arriver, hein, et d'une manière alors qui est absolument sidérante et affligeante. Je croyais quand même établi depuis longtemps qu'on pouvait parfaitement, sans adhérer à une religion quelconque, se comporter de façon parfaitement rigoureuse du point de vue moral, etc. Et là, on pourrait, le président de la République mériterait qu'on l'incite à lire quelques livres sérieux, comme par exemple « Science et religion » de Bertrand Russell, que j'ai utilisé pas mal dans ce livre, et puis aussi « L'avenir d'une illusion » de Freud, parce que l'un et l'autre, que ce soit Bertrand Russell et Freud, insistent particulièrement sur la quantité incroyable de violence, de cruauté et d'inhumanité que les religions, y compris la religion chrétienne, qui est en principe supposée être la religion de l'amour, ont été capables de provoquer. Et on a l'impression que tout d'un coup, tout ça est oublié. Je ne parle pas des violences diverses que la religion continue à encourager et quelquefois même à exercer. Il y a des religieux qui lancent des appels au meurtre, etc. Ce qui, me sidère toujours, parce que je veux dire, une religion qui ne commence pas par professer, s'il y a un dogme que je professerai, sans hésiter, c'est le dogme du respect de la vie humaine. Je veux dire, ça me paraît, pour moi, c'est ce qui devrait être le plus élémentaire dans une religion. C'est une religion qui ne respecte pas, avant tout, cette chose-là. Moi, j'ai tendance déjà à être plus que réticent. Mais enfin, pour en revenir à notre problème, vous avez raison de soulever cette question qui... Alors, je ne veux pas dire que ce que j'ai dit était prémonitoire, ça serait très exagéré, mais j'ai été assez sidéré, c'est d'avoir une confirmation presque aussi immédiate, parce qu'en gros, les craintes que j'avais formulées, en voyant cette espèce de complaisance de plus en plus grande, hein, qu'on a pour les revendications des religions traditionnelles, donc ça m'avait un peu inquiété, et évidemment, ces inquiétudes se sont trouvées confirmées plus que largement là, par ce qui vient de se passer.
Oui, donc Sarkozy, Nicolas Sarkozy, dans un discours récent, a dit que la France était la fille de l'Église. Alors, au-delà de ça, il y a plusieurs questions qui se posent. Est-ce que déjà c'est un vrai chrétien? Et puis, ce recours à la religion, c'est au profit de qui et de quoi?
Alors, est-ce que c'est un vrai chrétien? Bon, ça, je pense qu'on peut répondre sans grande hésitation, non. Une religion est constituée Bertrand Russell, en tout cas, voyait des choses comme ça, de trois éléments. Donc il y a ce qu'on appelle il y a le credo, il y a la morale, et puis il y a l'Église. Hein, alors ces trois éléments peuvent compter plus ou moins selon les religions. Vous savez, il y a des religions qui sont presque sans dogme, il y en a qui sont presque sans Église, et puis il y en a qui sont presque sans morale. Bon. Donc la présence et l'importance de ces trois éléments peuvent varier considérablement. Mais en ce qui concerne le dogme, je pense que ce n'est pas quelque chose qui importe beaucoup à notre président de la République. On aimerait bien l'interroger un peu plus précisément sur le contenu exact de ses croyances, bien qu'ils se disent catholiques, si j'ai bien compris. La morale, c'est parfaitement clair qu'il ne tient strictement aucun compte. Il fait comme si, il donne l'impression d'avoir oublié que, par exemple, en matière de vie conjugale, etc., il y a des prescriptions très précises. L'Église catholique, jusqu'à preuve du contraire, n'admet toujours pas le divorce, ou en tout cas n'autorise pas les gens divorcés à se remarier religieusement, etc. Enfin bon, j'insiste pas là-dessus, mais ça, visiblement, il s'en moque aussi. Pour ce qui est de l'Église, si vous voulez, de l'aspect pratique religieuse, etc., j'ai pas l'impression que ça compte non plus beaucoup pour lui, quoi. Mais là, il est assez représentatif, à mon sens, de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que, d'après une enquête récente du Croix du Monde des religions, il semble que plus de la moitié des catholiques ne croient pas à la vie future. Ils ne croient pas à l'immortalité de l'âme, ni encore moins, évidemment, à la résurrection des corps. Ils font pourtant partie du credo, si vous voulez. Quelqu'un qui se dit catholique, en principe, est censé connaître les articles de foi de la religion qu'il professe. Hein. Mais on assiste à un changement d'attitude, celui qu'au fond, les gens pratiquent, ils considèrent qu'ils prennent dans une religion ce qui leur convient, ils oublient le reste, en fait, ce qui est quand même un peu nouveau. Pour moi, ça aurait été impensable de faire ça. C'était impensable pour Renan. Hein. Quand Renan s'est aperçu qu'il y avait des choses auxquelles il ne parvenait plus à croire, il a quitté l'Église catholique. Moi, j'ai fait la même chose. Bon, quand je me suis aperçu que j'ai pris conscience du fait qu'il y avait des dogmes auxquels il m'était impossible d'adhérer, j'ai estimé que je ne pouvais pas continuer à me dire chrétien. Bon, et puis voilà, bon, on s'est séparés en bonne intelligence, comme on dit, ce qu'avait déjà fait Renan. Et alors, on a l'impression que cette forme d'honnêteté qu'avait Renan, je crois que c'était de ce point de vue-là un homme très honnête, il a considéré que quand on ne pouvait plus croire totalement, il fallait considérer qu'on ne croyait plus du tout. Mais plus personne ne raisonne comme ça. Hein. C'est-à-dire tout le monde trouve normal dans une religion de prélever ce qui lui convient, ce qui éventuellement l'aide à vivre, et puis de laisser tomber le reste. Hein. Et c'est très exactement, je pense, ce que fait le premier des Français. En ce moment. Alors, vous me demandiez pourquoi. Alors, je crois que là, il y a quand même, en gros, une réponse qu'on peut faire, qui est que le retour du religieux correspond à un déclin du politique. C'est-à-dire, si on veut faire monter une espèce de rideau de fumée devant les vrais problèmes, il y a toujours intérêt, si vous voulez, à ramener au premier plan la morale et la religion. Parce que, évidemment, ça, c'est une façon de noyer le poisson qui peut se révéler momentanément payant. Je dis momentanément parce que ça ne peut pas payer indéfiniment. Ce que je veux dire par là, en ce qui concerne la morale, par exemple, c'est que vous avez sûrement remarqué comme moi qu'il y a une tendance à abuser de plus en plus de cette idée que le capitalisme sera très bien le jour où il sera devenu moral. Quand il y a des scandales, c'est des patrons voyous, incompétents, etc. Ils ont droit à un serment moral. Les petits délinquants, évidemment, on se comporte de façon de plus en plus dure et répressive avec eux. Les grands délinquants, on leur fait la morale. Oui, c'est très caractéristique. C'est la morale qui est censée représenter la solution du problème. Alors donc, on se berce de l'idée que le capitalisme pourrait finir par devenir moral, ce que je ne crois pas du tout. Je pense qu'il est immoral par essence. Il peut changer parce qu'on se décide à introduire à certains endroits des restrictions, des contraintes, enfin des règles de nature quelconque. Après ça, il faut encore réussir à les faire respecter. Mais je pense que le retour de la religion, ça va un peu dans le même sens. Et donc, c'est pas une chose tellement nouvelle. Hein. La religion a toujours... Alors, il y a eu une époque où on disait « la religion, c'est l'opium du peuple ». Je n'irai pas jusqu'à proposer de réintroduire sérieusement cette formule, mais c'est quand même en train de fonctionner comme l'opium, comme une forme d'opium. Hein. En tout cas, je vois des raisons de percevoir les choses de cette manière. Donc il y a derrière ce recours au religieux, comme on peut l'appeler en reprenant la formule de Georges Cormes, je pense qu'il y a cette idée de masquer un certain nombre de problèmes qui sont des problèmes véritablement politiques au profit d'une sorte de consensus. Une sorte de consensus qui emprunte spontanément le langage de la foi et de l'espérance. Si vous voulez, j'ai été très frappé par le discours de certains des discours récents de notre président. Hein. Il faut pour que les choses aillent bien, il faut avoir ces deux choses, la foi et l'espérance. Et là, évidemment, quand vous tenez ce genre de discours, implicitement, ça veut dire qu'il ne faut surtout pas considérer que ce qui compte, ce sont les luttes sociales, le combat contre les injustices et les inégalités sociales, etc. Il nous faut quelque chose de plus, qui semble à première vue plus facile à avoir, à savoir justement de la croyance et de l'espérance. Alors je me méfie énormément de tout ça parce que, encore une fois, je pense que c'est le langage de tous les gens qui s'efforcent de nier la réalité des luttes sociales, des injustices sociales et finalement la spécificité et la réalité du politique lui-même.
Oui, ce qui permettrait de légitimer une impuissance du politique.
Oui, en gros, bien qu'on ait affaire à un président qui est hyperactif et même hyperactiviste, il y a quelque chose comme la reconnaissance du fait que ce qui décide en dernier ressort, ce n'est pas tellement c'est pas la politique, mais c'est beaucoup plus au niveau de la mentalité hein, et de la croyance, que les choses essentielles se jouent. C'est-à-dire si les gens étaient capables d'oublier momentanément ce qu'on leur présente comme étant les urgences du moment, en particulier dans le domaine social et politique, si j'étais capable d'oublier un peu ça pour se remettre à croire, hein, en particulier à croire à l'avenir, croire à la supériorité du modèle français, et à des choses de ce genre, ça irait beaucoup mieux. Donc j'avoue que je suis totalement... Je résiste totalement à ce genre de discours, hein, qui encore une fois me semble foncièrement mensonger. Alors je ne dirais pas jusqu'à dire que les capitalistes d'aujourd'hui se comportent exactement comme ceux du 19e siècle, qui, comme chacun sait, étaient les meilleurs alliés de le pouvoir religieux, le pouvoir économique, marchaient véritablement la main dans la main. C'est contre ce genre de choses, d'ailleurs, que réagissaient les représentants de ce qu'on appelait le catholicisme social, hein, je veux dire les gens comme Lacordaire, Lamennais, etc., qui pensaient que ce n'était pas de ce côté-là que l'Église devrait être. Or, on a l'impression que là ce n'est pas tellement que l'Église a cherché à se replacer dans ce genre de situation, mais c'est plutôt qu'on a l'impression que c'est le pouvoir politique hein, qui est devenu au-devant de ses plus chers désirs et qui est même allé un peu au-delà de ce qu'elle pouvait réclamer. Donc on a l'impression d'assister à une espèce de reconstitution de cette sainte alliance, si vous voulez, entre le pouvoir politique, le pouvoir économique et le pouvoir religieux.
Mais alors justement, est-ce que le capitalisme ne serait pas la nouvelle religion actuelle, ou est-ce qu'on ne voudrait pas faire croire que le capitalisme est la nouvelle religion ?
Est-ce qu'il faut l'appeler une religion ? Je ne sais pas. Lui-même, oui, pourrait à la limite. Enfin, si vous voulez, il y a des formes d'adhésion, y compris au capitalisme, qui peuvent être de nature religieuse, parce que ça relève fondamentalement de la croyance. C'est-à-dire quand on vous demande d'adhérer à quelque chose, sans être en mesure de fournir véritablement quoi que ce soit qui ressemble à des preuves, si vous voulez, on dit il faut y croire. Et ça, je crois que c'est vrai que dans le capitalisme actuel, il y a un élément de cette sorte. Hein. C'est-à-dire, c'est pas tellement ce qui produit n'a rien de mirobolant. Hein, quand on voit la quantité incroyable d'inégalités, d'injustices, etc., qui tolère, donc c'est pas mirobolant, mais faut néanmoins y croire. Alors dès que bon, faut y croire parce que c'est la seule chose qui nous permet d'espérer une amélioration, etc., etc. Effectivement, là, on est en droit de se dire qu'il y a un élément qui est de nature plus ou moins religieuse. Hein, ça me paraît clair. Et je trouve ça un peu inquiétant parce que qui a intérêt à faire croire que les questions importantes sont des questions qui se décident en termes de foi ou plus généralement en termes de croyance et pas en termes de raisonnement, d'argumentation, vous voyez. Par exemple, les hommes politiques, bon, qui, Dieu sait qu'il y a quand même entre la politique et le mensonge des liens assez importants. Une politique de la vérité, j'avoue que je ne sais pas bien ce que ça pourrait être. Enfin, en tout cas, on a l'impression que les hommes politiques sont des gens qui sont amenés à mentir presque par profession. On peut même à peine leur reprocher, parce que souvent, on se demande comment ils pourraient faire autrement. Mais en tout cas, ce qui est tout à fait clair, c'est que si vous avez des hommes politiques qui tiennent des discours mensongers, qu'ils ont intérêt à vous faire croire, si vous avez des entrepreneurs qui fabriquent des produits qui sont plus ou moins douteux, qui ont intérêt à vous les vendre, qui essaient de vous les vendre par tous les moyens, on comprend très bien que ces gens-là aient tout intérêt, si vous voulez, à vous dire ce qu'ils décident, c'est la foi et pas le raisonnement. Hein, parce qu'ils ont bien plus de chances, évidemment, de réussir à imposer, à faire triompher leurs intérêts et à vendre le produit qu'ils vous proposent, le produit politique dans un cas et le produit économique dans l'autre. Donc moi, je suis très frappé par ça, si vous voulez, la quantité d'excellentes raisons que peuvent avoir aujourd'hui les gens qui occupent des positions dominantes de vous dire ce qui compte finalement, Ce sont des choses qui se décident en termes de croyances, hein, et pas en termes d'argumentation, de raisonnement, etc. Et bien sûr, ce genre d'attitude est tout à fait favorable à cette idée d'un retour du religieux, parce qu'il se pourrait que sur des questions comme celle-là, même sur des questions comme les questions politiques, on soit aujourd'hui largement acquis à cette idée que, comme disait Sébastien Bush, je crois qu'il disait, les affaires de croyance sont comme les affaires d'amour, il n'y a pas de raison pour ou contre cela. Qui a intérêt à vous persuader de ça? C'est-à-dire que on croit ou on ne croit pas, hein, on ne sait pas trop pourquoi, on aime ou on n'aime pas, c'est tout pareil. Ce sont les gens qui cherchent à vous faire acheter des produits frelatés qui ont tout intérêt à tenir ce genre de discours, en particulier les hommes politiques. Hein. Parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce que les gens se mettent à exercer véritablement leur raison, commencent à formuler des objections, se mettent à questionner, à argumenter, etc. C'est pas ça qu'ils cherchent à obtenir. Et il me semble qu'assez spontanément, quelqu'un qui se comporte de cette manière aura tendance à trouver que la religion, le mode de pensée de la religion est finalement très acceptable. Il est beaucoup plus que celui de la science qui est par définition critique. Parce que ce qui caractérise l'attitude du scientifique authentique, c'est le fait, quand c'est un scientifique authentique, il y a beaucoup de représentants de la communauté scientifique qui ne sont peut-être pas de vrais scientifiques, mais quand ce sont de vrais scientifiques, ils reconnaissent qu'ils savent très peu de choses, et que même la plupart du temps, ils savent pas du tout. Donc c'est une attitude qui est dangereuse, si vous voulez, pour tous les gens qui occupent des positions de pouvoir, parce que ce qu'on aime précisément, c'est les gens qui sont convaincus fermement et qui adhèrent sans hésiter. Quand les convictions politiques, si vous commencez évidemment à douter à chaque instant, il est clair que ça paralyse complètement l'action. Et par conséquent, ce n'est pas ce genre de croyances, hein, qu'on n'a pas besoin de croyances qui sont assorties constamment de scrupules, d'hésitations, etc. On veut des croyances qui sont des croyances complètes. Bon. Donc mon problème à moi, c'est un peu ça, si vous voulez, qu'est-ce qu'il faut essayer de développer chez les gens? Est-ce que c'est l'aptitude à croire? C'est ce que notre président de la République aimerait bien faire. L'aptitude à croire sans trop se poser des questions. Est-ce que c'est ça qu'il faut développer, ou bien est-ce que ça ne serait pas plutôt l'aptitude à critiquer, à douter et à critiquer, qui me semble un des instruments essentiels de la démocratie, l'esprit critique et la tendance à ne jamais adopter de croyance sans demander des raisons. J'ai cité aussi Valéry qui disait les preuves sont la politesse de l'esprit, hein, c'est-à-dire de demander toujours des preuves. Bon. Parce que si on refuse de vous les donner, ça veut dire qu'on cherche à vous manœuvrer, on cherche à vous faire obéir, etc. Donc quand quelqu'un arrive en disant « il faut croire, hein, il faut croire et espérer », moi je suis fortement tenté de le comprendre comme quelqu'un qui au fond cherche un peu à nous jouer ce genre de tour. C'est-à-dire quelqu'un qui dit « oh là là, ne discutez pas trop, ne cherchez pas trop à avoir des raisons ». Essayer de croire et d'être optimiste. Hein. C'est un peu le genre de discours qu'on est en train de nous tenir et auquel je réagis en adoptant exactement l'attitude que recommandait Valéry. Hein. C'est-à-dire j'ai besoin d'avoir des preuves de tout ce que le capitalisme triomphant nous promet de réussir à faire, par exemple de diminuer progressivement puis d'éliminer la pauvreté dans le monde. Quelle raison y a-t-il de croire qu'il réussira à le faire? Oui, enfin, on peut appliquer le genre de questions que nous nous posons à une multitude de problèmes qui vont bien au-delà du domaine religieux proprement dit, pour la raison qu'il y a toute une série de questions, on ne peut plus concrètes, à l'égard desquelles les gens qui nous gouvernent, les représentants du pouvoir, que ce soit le pouvoir économique, le pouvoir politique, le pouvoir médiatique, le pouvoir religieux, à l'égard desquels ils ont intérêt peut-être à entretenir une attitude qui est de nature religieuse plutôt que rationnelle.
Monsieur Toublanc, vous enseignez la charité bien ordonnée dans vos châteaux en Italie. Monsieur Toublanc, la charité, c'est très gentil. Mais qu'est-ce que c'est? Expliquez-moi. Pendant ce temps-là, moi je vis à Aubervilliers. C'est un petit coin perdu au bout de la misère. où l'on n'a pas tellement de questions à se poser. Pour briefer, faut bosser, mon petit père. Monsieur Toublan, l'oiseau blessé que chaque jour vous consommez était d'une race maudite. Monsieur Toublan, entre nous, dites, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, vous poutaisiez. Pendant ce temps-là, moi, je vivais à Aubervilliers. Ça n'était pas l'époque à dire des rosaires. Il y avait des tas de questions qu'il fallait se poser. Pour durer, faut lutter, mon petit père. Monsieur Toublan, si vous partez un beau matin les pieds devant pour vos châteaux en paradis, Monsieur Toublan, le paradis, c'est peut-être gentil. Priez pour moi, moi, j'ai pas le temps, car je vivrai toujours à Aubervilliers. Avec deux bras noués autour de ma misère, on n'aura plus tellement de questions à se poser. Dans la vie, faut s'aimer, mon petit père. Monsieur Toublan, si j'enseignais la charité bien ordonnée dans mes châteaux d'Aubervilliers, Monsieur Toublan, ça n'est pas vous que j'irai trouver pour m'indiquer ce qu'il faut donner.
Dans votre livre, donc, peut-on ne pas croire, vous vous montrez très inquiet sur la crédulité croissante de la population, toute classe sociale confondue d'ailleurs, et bon, c'est là que c'est un peu prémonitoire, dans le sens où les exemples que vous donnez, c'est plutôt sur les États-Unis, avec beaucoup de citations de Chomsky. Peut-être qu'on peut en reprendre quelques-unes. Enfin, oui, il y a des études de fait.
C'est la page 153, si je me souviens bien. Oui, oui, alors, attendez.
Oui, c'est 154.
153, 154. Alors, est-ce que c'est celui-là ?
Le philosophe Jacques Bouvresse.
Non, c'est plus loin, je pense. Voilà, c'est là. Ça, c'est Sokal qui dit « Je dois avouer que je suis légèrement déconcerté par une société dans laquelle 50% de la population adulte croit à la perception extrasensorielle, 42% aux maisons hantées, 41% à la possession par le diable, 36% à la télépathie, 32% à la voyance, 28% à l'astrologie, 15% au channeling et 45% à l'exactitude littérale du récit de la création dans la Genèse. Cependant, parce qu'il y a pire, cependant, c'est une inquiétude bien plus profonde que j'éprouve devant une société où 21 à 32% de la population pense que le gouvernement irakien de Saddam Hussein était directement impliqué dans les attaques terroristes du 11 septembre 2001, 43 à 52% que les troupes américaines en Irak ont trouvé des preuves incontestables d'une proche collaboration entre Saddam Hussein et Al-Qaïda, et 15 à 34% que les troupes américaines ont découvert des armes de destruction en Irak. Alors ça, c'est tout à fait sidérant, et je crois que ça répond en même temps à la question que vous posez. Sokal et Chomsky estiment tous les deux que quand les gens deviennent aussi crédules sur des questions qui peuvent sembler à première vue secondaires, si vous voulez, comme celle de savoir si l'astrologie est ou non une science, il y a quand même un risque qu'ils deviennent à peu près également crédules en matière politique. Et ils estiment que développer l'esprit critique pourrait avoir des effets politiques positifs pour la défense de la démocratie. Hein. Ils estiment que ça, Chomsky utilise cette expression, il parle de, si je me souviens bien, d'autodéfense intellectuelle. C'est l'autodéfense contre les, en particulier contre les mensonges politiques, hein, comme ça a été le cas de la guerre, le déclenchement de la guerre en Irak. Même la presse américaine a été bel et bien victime d'une opération de propagande. Bon, elle l'a reconnu du reste après coup. Donc, comment se défendre contre ça? Et quand on voit le degré de crédulité que les gens sont capables d'atteindre, donc sur des questions qui au fond ne sont pas des questions très ne sont peut-être pas des questions gravissimes. Hein. Bon, moi, je trouve que, pour moi, l'astrologie est une pseudo-science. Bon, mais à la limite, qu'il y ait 40% de gens, je ne me souviens plus du chiffre exact, qui soient prêts à croire à l'astrologie, je pourrais m'accommoder de ça. Mais quand les gens en arrivent à penser, vous avez vu la proportion de gens qui croient que non seulement il y avait des armes de destruction massive en Irak, mais qu'on les a trouvées. Tout ça dans un monde où on est littéralement surinformé, on est submergé constamment d'informations qui font elles-mêmes l'objet de discussions, enfin de confrontations entre les spécialistes, de discussions interminables, etc. Donc mon idée est qu'une certaine sensibilité à la vérité et au processus par lesquels on a des chances de réussir à se rapprocher d'elle, c'est-à-dire les processus qui consistent à se poser sérieusement des questions sur... une affirmation à laquelle on se trouve confronté, à essayer de trouver des preuves, formuler des objections, voir si la dite affirmation est capable de résister aux objections, etc. Donc, j'ai tendance à considérer que c'est le développement de ce genre d'aptitude donc, qui constitue la meilleure arme hein, au service de la démocratie. Je me suis intéressé de près à trois auteurs, Bertrand Russell, Chomsky et Orwell, hein, qui sont trois exemples typiques de penseurs qui estiment que la première chose qu'il faut défendre dans l'intérêt de la démocratie, c'est la capacité d'abord de s'intéresser à la vérité et ensuite de choisir les moyens les plus appropriés pour avoir des chances de réussir à l'atteindre. J'ai dû citer Orwell qui dit dans 1984, à un moment donné, la vraie liberté, c'est la liberté de dire que deux fois deux font quatre. Alors on comprend très bien pourquoi il dit ça, parce que si vous vous souvenez du thème de 1984, il y a littéralement un ministère de la vérité, hein, dans lequel c'est l'autorité politique qui décide de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Ça concerne en particulier l'histoire, hein, c'est le propre de toutes les dictatures de réécrire l'histoire. Ça rejette le droit de réécrire l'histoire, donc de décréter souverainement ce qui est un fait historique, ce qui n'en est pas un, etc. Il y a là évidemment une menace tout à fait directe, explicite qui porte sur la démocratie elle-même, hein, sur les conditions de possibilité de la démocratie, et ça revient en gros à nier l'existence d'une vérité objective. Pour que le pouvoir politique puisse s'arroger le droit de décider ce qui est vrai, il faut abandonner toute idée de vérité objective. Par définition, la vérité objective est une vérité sur laquelle nous n'avons pas de prise. Hein. Nous pouvons la reconnaître ou refuser de la reconnaître, mais nous ne pouvons pas la fabriquer, nous ne pouvons pas non plus la modifier. Par conséquent, il y a eu des grands penseurs, parce que je considère ceux-là, donc les trois que j'ai cités, Russell, Chomsky et Orwell, et je pense que ce sont vraiment trois penseurs exemplaires à bien des égards, qu'on devrait utiliser beaucoup plus hein, pour penser la réalité actuelle. À commencer par Bertrand Russell, parce que bon, Dieu merci, Chomsky quand même est quelqu'un qui mène des combats qui sont connus et qui, je l'espère, exerce une certaine influence. Orwell commence à être... passablement connu en France, il n'est pas encore suffisamment, mais Bertrand Russell est quelqu'un dont on ne parle pas beaucoup, et ses textes politiques sont je trouve, extrêmement intéressants, et en particulier la fermeté avec laquelle il défend cette idée que les seuls régimes politiques à avoir besoin du mensonge, de la mystification et du mensonge, sont les dictatures, ce sont les tyrannies. La démocratie, elle, a besoin avant tout de la vérité. Et il a tendance à penser que si, comme certains postmodernes ont proposé de le faire, on décide d'oublier plus ou moins l'idée de vérité ou de considérer qu'elle n'est pas si importante que ça. Ce qui va en résulter n'est pas du tout une meilleure coexistence plus pacifique entre les êtres humains, moins de conflits, moins de violences, etc. Il pense que ce sera exactement le contraire. C'est-à-dire qu'en s'attaquant à l'idée de vérité, donc on s'attaque, d'après lui, au fondement même de la démocratie. Et donc on travaille plutôt, si vous voulez, on tend à favoriser une situation dans laquelle il y aura non pas moins, mais plutôt plus de violence. Ce sera la violence... On tend à favoriser un surplus de violence, voire même de guerre.
Alors, est-ce que, justement, on va dans ce sens avec l'imposition du créationnisme, c'est-à-dire de la croyance au récit biblique de la création, donc l'imposition du créationnisme comme alternative légitime à l'évolutionnisme, au darwinisme, ça c'est un signe de recul de la raison, un signe qu'on va vers plus de violence, etc. pour vous ?
Alors, je ne sais pas si on peut... conclure directement, si vous voulez, du retour en grâce et de la remise en honneur sur un pied d'égalité avec les théories scientifiques, et en l'occurrence avec la théorie darwinienne, de théories comme le créationnisme. Mais en tout cas, pour le moment, bon, ça ne semble pas représenter une menace très très sérieuse.
En France, non, mais aux États-Unis, voilà. C'est...
Vous avez raison, il faut distinguer les deux situations. Aux États-Unis, il y a un journaliste du New York Times qui, je crois que j'ai cité ça, qui s'est demandé, il y a quelques années, si on pouvait encore considérer comme une société rationnelle et moderne, une société dans laquelle les gens croient aussi facilement, voire même plus facilement à l'Immaculée Conception qu'à la vérité de la théorie darwinienne. Donc oui, il était déjà en train de se poser ce problème. Et il se rappelait quand même que l'Amérique dont il s'agit, c'est, est une héritière de l'Amérique des Lumières, l'Amérique de Jefferson, etc. Enfin, qui était, bon, un pays qui a joué de ce point de vue un rôle exemplaire. Et donc il se demandait, il se disait, cette Amérique-là, l'Amérique dans laquelle nous vivons aujourd'hui, est-ce que c'est encore la même ? Et je pense qu'il avait raison. Ce qui est préoccupant, effectivement, et c'est en rapport avec ce dont nous parlions à l'instant, c'est cette incapacité que semblent avoir les gens, donc comme en témoignent les chiffres donnés par Sokal et Chomsky, hein, à faire la distinction entre une théorie qui mérite d'être appelée scientifique, qui a été confirmée à un degré raisonnable. Bon, évidemment, il n'y a pas de théorie scientifique à laquelle on soit absolument certain qu'il n'y aura rien à changer, etc. Bon, n'importe quel scientifique honnête, c'est ça. Mais il y a une difficulté à faire la différence entre ce genre de théorie et une théorie qui ne repose sur aucune preuve sérieuse, hein, sur rien d'autre que, au fond, des assertions plus ou moins dogmatiques appuyées sur une soi-disant révélation. Je dis soi-disant parce que pour moi, comme je ne crois pas à la révélation dont il s'agit, mais on voit aujourd'hui effectivement aux États-Unis des gens tout à fait sérieux qui vont dans les canyons du Colorado et qui s'efforcent de fournir des preuves en quelque sorte géologiques, hein, de la vérité du récit de la Genèse. Alors, puisque vous me posez la question, oui, je trouve ça inquiétant. Je pense que jusqu'ici, la France n'a pas été touchée réellement par ça. On a été jusqu'à présent relativement protégé par... précisément par la laïcité, hein, c'est-à-dire par le fait que, jusqu'à présent, dans le système scolaire français, il est impossible de mettre sur le même plan une théorie comme la théorie darwinienne et le créationnisme. Mais Dieu sait ce qui se passera dans les décennies qui viennent. Il y a quelques raisons de s'inquiéter, surtout quand on voit le pouvoir politique, encore une fois, venir en quelque sorte au devant des désirs du pouvoir religieux et même aller au-delà, parce que tout à fait entre nous, je ne pense pas que le pouvoir religieux s'attendait au genre de sermon que le président a fait à Rome, hein, quand il a dit qu'au fond, pour avoir une morale au sens strict, il faut avoir une religion. Hein, je ne suis pas sûr du tout, et beaucoup d'esprits religieux ont été non seulement surpris, mais même choqués d'entendre ça. Il y a beaucoup de croyants qui estime tout à fait sérieusement qu'un incroyant peut parfaitement être quelqu'un de parfaitement respectable et même peut même avoir une rigueur morale plus grande que bien des croyants. Hein. Donc je crois que le pouvoir politique, en l'occurrence, est encore une fois allé plus loin que le pouvoir religieux ne l'espérait et même ne le souhaitait. Mais en tout cas, bon, il y a dans la situation actuelle plusieurs indices qui donnent, me semble-t-il, quelques raisons de s'inquiéter.
Et à quoi correspond votre critique des penseurs qui nous plongent dans ce que vous appelez dans votre livre « Peut-on ne pas croire ?» Donc ces penseurs qui nous plongent dans un brouillard de mots.
Alors là, si je me souviens bien, je faisais allusion aux gens qui ont tendance aujourd'hui à entretenir une forme de confusion assez caractéristique qui consiste à, d'abord, si vous voulez, à suggérer plus ou moins que toutes les formes de croyance se valent, qu'il n'y a pas de différence réelle entre la religion et la science. Alors il y a une tendance à oublier un peu la question de la vérité dans tout ça. Bon, en démocratie, le principe de la démocratie, c'est que tous les individus sont égaux. Il peut sembler que, dans la foulée, on pourrait aussi se dire que toutes les idées sont égales, toutes les théories sont égales, qu'il n'y a pas de raison de reconnaître des prérogatives spéciales à celles qui prétendent être vraies et avoir démontré qu'elles l'étaient, en l'occurrence les théories scientifiques, qui quand même la plupart du temps jouissent de cet avantage. Elles sont pas toutes vraies, même celles qui sont vraies, on n'est pas sûr qu'il ne faudra pas un jour les modifier, etc. Mais on peut facilement être tenté par cette idée, hein, que le... l'égalitarisme authentique implique qu'on renonce à l'idée d'une hiérarchie entre les théories. Et alors évidemment, ça revient à encourager à peu près systématiquement la confusion, si vous voulez, voire même le confusionnisme caractérisé. Et donc là aussi, pour répondre à votre question, j'ai réagi contre ça en me posant la question... dans quel sens, si vous voulez, quel genre de choses cela peut-il favoriser? Est-ce que c'est une démocratie améliorée ou le contraire? Je pense que c'est plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire. Si on se prive de la possibilité de faire les distinctions, on va au-devant des dangers les plus sérieux. Bon, parce qu'on perd absolument tout moyen de défense. Si, quand on défend la théorie darwinienne comme étant une théorie sérieuse, et bon, c'est sûrement pas une théorie parfaite, c'est sûrement pas la théorie définitive, mais enfin, bon, pour le moment, c'est quand même probablement la meilleure, ou si certains préféraient peut-être dire la moins mauvaise, je ne sais pas, dont nous disposions pour expliquer certaines choses, et même pour expliquer certaines choses, des choses qui sont extrêmement importantes concernant notre position d'être humain dans l'univers, etc. On ne peut pas vouloir la défendre et en même temps se priver de tout moyen réel de le faire en décrétant qu'elle n'est ni vraie ni fausse, qu'elle n'est pas plus vraie, pas plus fausse que n'importe quelle théorie défendue sur le même sujet par une religion ou une secte.
Bon, et pour finir, je voudrais revenir au recours à la religion ou aux religieux. Si on regarde à échelle internationale, est-ce que c'est pas aussi une façon de légitimer certaines guerres?
La religion. Alors, dans la guerre en Irak, bon, il y a eu quelque chose qui... Il y a eu des aspects, effectivement, qui ressemblaient un peu à une croisade, quoi. Je veux dire, c'est sûr qu'on a vu revenir un type de langage qu'on avait un peu oublié. Cette idée qu'il s'agissait, en gros, d'une lutte entre le bien et le mal, hein, ou presque entre Dieu et le diable. Alors ça aussi, là, je suis d'accord, c'est assez inquiétant. Ça, c'est un type de langage qui ne devrait pas avoir sa place en politique. Une position proprement politique devrait s'interdire de s'exprimer dans ce genre de langage. Mais c'est quand même bel et bien ce qui s'est passé. Ce qui fait qu'on a eu un affrontement entre deux camps qui prétendaient l'un et l'autre être l'incarnation du bien, engagé dans une guerre inexpiable contre le mal. Ça, c'est un aspect typique, je pense, du recours du religieux. Encore que, malheureusement, si vous voulez, il y a toujours eu... toutes les guerres, plus ou moins, ont été menées sur le thème du « Gott mit uns », hein, « Dieu avec nous ». C'était le cas de la guerre de 14-18. Enfin, ça, c'est quand même généralement comme ça que ça se passe. Et ce n'est pas un argument qui parle en faveur de la religion. Je me souviens que Karl Kraus s'était converti au catholicisme avant la guerre, donc en 1911. Et après la guerre, il a quitté l'Église catholique en disant que elle avait passé son temps à bénir là où il aurait fallu maudire. C'est-à-dire qu'il n'a absolument pas pardonné son attitude pendant la guerre. C'est la façon dont il a encouragé le patriotisme, le bellicisme. Et malheureusement, il n'y a pas que la patrie comme justification. Il y a quelque chose d'encore bien supérieur à ça, à savoir Dieu lui-même. Donc il y a un risque que chaque fois qu'il y a des conflits, on voit réapparaître cet élément. On a tendance à mettre Dieu de son côté. Mais là, dans le cas précis, évidemment, c'était beaucoup plus accentué et présent dès le départ. Dès le départ, il y avait cette idée de... Oui, mais il faut dire que c'est une guerre qui a été décidée et entreprise par quelqu'un qui était de toute façon bien décidé à la faire, ça c'est clair, et qui a certainement été encouragé considérablement par ses convictions religieuses. Ça, c'est peut-être l'aspect le plus inquiétant, si vous voulez. Je crois qu'on a rarement vu quand même les convictions religieuses personnelles d'un président, en l'occurrence le président... le chef du pays le plus puissant du monde, faire intervenir aussi ouvertement et aussi directement ses convictions religieuses dans le déclenchement d'une opération qui a eu les conséquences que nous savons et par laquelle le monde entier se trouve finalement concerné, puisque le résultat de tout ça a été de créer une situation désastreuse et extraordinairement dangereuse. Enfin, encore que les Américains sont persuadés que la situation s'améliore, qu'ils vont progressivement réussir à gagner la guerre en Irak, mais ça... C'est une illustration assez typique du problème que nous nous posions, le recours religieux. Mais jamais, bien sûr, un dirigeant politique n'admettra qu'il se sert du religieux. Il se présentera toujours dans la position du croyant, qui est en réalité est plutôt lui-même au service du religieux, c'est-à-dire de la bonne cause, celle qui est la plus importante de toutes, c'est-à-dire la cause du bien. Et nous retombons sur notre problème, c'est-à-dire est-ce qu'il peut y avoir une notion... des notions du bien et du mal qui soient véritablement laïques, hein, c'est-à-dire qui soient indépendantes de toute espèce de référence religieuse. Alors moi, je crois que oui, comme tous les gens qui croient au moins, dans une certaine mesure, à la raison, aux valeurs de la raison, mais ce n'est pas sûr du tout que les gens qui croient ça soient actuellement majoritaires. Je ne sais pas s'il y en a tellement, et surtout, je ne sais pas s'ils ont actuellement les moyens de défendre efficacement leur position. On a atteint un tel degré de méfiance à l'égard de la science et de la raison elle-même que ça risque de devenir de plus en plus difficile. On risque d'avoir de plus en plus de mal à persuader les gens qu'on peut se gouverner à l'aide des seules lumières de sa raison. Il n'est pas de bon ton d'encourager les gens à le faire, c'est leur dire vous pouvez vous en sortir avec ce genre d'instrument, en tout et pour tout. Ce n'est pas le genre de discours que les gens aiment tellement entendre. Et pourtant, le vrai progrès serait que les gens réussissent à se persuader de plus en plus qu'on peut se passer de la religion dans une mesure bien plus importante qu'ils ne le croient spontanément. Parce que, vous voyez, là, c'est toujours la même chose. Ce qu'on croit joue un rôle déterminant sur ce qui est possible. C'est-à-dire, si vous êtes convaincu dès le départ qu'il est impossible de se passer de la religion, parce que sans un fondement religieux, il ne peut pas y avoir de morale digne de ce nom, il est évident que ça va jouer évidemment en faveur d'un accroissement du pouvoir de la religion, de l'emprise de la religion sur les esprits. Tandis que si vous partez de l'idée qu'on devrait pouvoir s'en sortir sans ce genre d'auxiliaire ou sans ce genre d'adjuvant ou de supplément, postuler qu'on peut s'en sortir avec les seules lumières de la raison, dans une mesure bien plus importante qu'on ne le croit le plus souvent, il y a peut-être des chances qu'on finisse par y arriver. Donc, je pourrais à nouveau citer Bertrand Russell, hein, qui disait le but de la philosophie, c'est de nous apprendre à vivre sans certitude. Bon, c'est difficile de vivre sans certitude. Et si on a besoin de certitude, les plus efficaces, les meilleures, les plus réconfortantes, c'est les certitudes religieuses, ça ne fait aucun doute. Si on pense que le but de la philosophie, c'est d'apprendre aux gens à se passer de certitudes, pas seulement de certitudes religieuses, mais même de certitudes en général, d'arriver à vivre sans certitude, d'abord je suis tenté de dire que c'est peut-être ça qui est démocratique, si vous voulez, que après tout, la vie en démocratie, c'est peut-être une façon de coexister, si vous voulez, entre les gens qui s'appuient fondamentalement sur la renonciation à l'idée de disposer de certitudes, en tout cas de certitudes absolues. Donc ce sera peut-être meilleur pour la démocratie elle-même. Pour moi, oui, ça représenterait un progrès. Donc là, j'avoue que en dépit de tout ce qu'on a pu reprocher au texte de Freud, l'avenir d'une illusion, il a appris beaucoup de choses à l'ancien croyant que j'étais. Et je continue à être très sensible à certains des aspects du texte. En particulier, il y a tous ces passages qui sont presque émouvants, dans lesquels Freud se demande sérieusement si la religion a contribué ou non au perfectionnement moral de l'humanité. C'est une question d'actualité, bien sûr. Hein. Et il répond non, hein, il dit aucune raison de croire ça, enfin il dit quand on regarde le genre d'être humain que la religion a produit, le genre de violence qu'elle a engendré, il est tout à fait impossible de croire que la religion était un facteur déterminant dans ce qui est supposé être un processus d'amélioration morale de l'humanité. Alors il va peut-être trop loin, je ne sais pas si j'irai aussi loin que lui, mais je trouve absolument légitime de se poser cette question, et de se poser aussi une autre question. Puisqu'on nous dit que, bon, grâce au retour supposé de la religion, l'avenir de l'humanité pourrait devenir plus radieux, ou en tout cas, l'humanité a peut-être de meilleures chances de réussir à résoudre ses problèmes les plus fondamentaux. Moi, je suis tenté de répondre, si la religion avait été capable de faire ça, elle l'aurait déjà fait. Je veux dire, je vois pas de raison de croire qu'elle va se mettre tout un coup à faire ce qu'elle n'a pas réussi à faire jusqu'ici. On s'aperçoit qu'il y a toujours cette même tendance de la part de l'Église à se servir de l'appui du pouvoir politique pour accroître son influence sur les esprits. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'affaire à des gens qui, certes, ont accepté la laïcité, mais à l'arrière-plan, il y a toujours cette idée que c'est pas normal, hein, que c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Ce qui serait normal serait que ce soit le pouvoir religieux qui gouverne et qu'à la limite même il impose son autorité au pouvoir politique lui-même. Alors quand le pouvoir politique se prête finalement plus ou moins à ce jeu, hein, ce qui est en train de se passer en France, c'est tout à fait étonnant quand même pour un pays qui a voté la loi de séparation de l'Église et de l'État, de voir arriver ça maintenant. Alors, est-ce que c'est parce que la référence, c'est les États-Unis, et que justement, aux États-Unis, les choses ont tendance à se passer de façon complètement différente, puisqu'il y a un rôle extrêmement important qui est joué, pas seulement par la religion, mais même par des formes de fondamentalisme et d'intégrisme religieux. Alors, est-ce que c'est ça l'explication? Auquel cas, l'explication, pour le coup, serait politique. Ça, il faudrait comprendre ça en termes de politique de puissance. Et ça me fait penser à une chose que Debray dit. Il dit que les États-Unis... comment il est possible que la première puissance mondiale, qui a la technique la plus développée, ait en même temps une politique internationale inspirée des Écritures saintes? Et alors, quand je lis ça, je suis un peu inquiet, parce que je ne sais pas si, au fond de lui-même, Debray n'éprouve pas une certaine admiration pour ça, si vous voulez. C'est-à-dire, je me demande toujours si ça le scandalise, ou si, au fond, il n'est pas enclin à penser que c'est peut-être comme ça que ça doit se passer. Si on veut avoir la puissance, il faut accepter d'adopter un modèle qui est peut-être plus proche de celui des États-Unis que d'une autre. La laïcité, c'est peut-être pas le meilleur moyen de... d'arriver, en termes de puissance, d'arriver au premier rang. Et donc, on aimerait avoir une réponse à la question, est-ce qu'il faut se résigner à savoir moins pour pouvoir plus? Je veux dire savoir moins, parce que ça veut dire accepter des formes, pas seulement de religiosité ou de religion, mais même presque d'obscurantisme. Est-ce qu'il ne faudrait pas être prêt à accepter des formes d'obscurantisme avec le bénéfice de l'acquisition d'un supplément de pouvoir politique? Donc, du point de vue de la politique de puissance considérée au niveau international, l'exemple des États-Unis est peut-être plus impressionnant, je ne vais pas dire plus probant, je ne le pense pas, que le nôtre. Et ça aussi, ça peut paraître tentant. Si ce qui compte, c'est la question de la puissance, alors effectivement, la religion est peut-être... c'est une fibre qu'il est plus intéressant de faire vibrer que la fibre rationnelle et scientifique. Parce que, comme on dit, la philosophie de la démocratie, c'est probablement plus le scepticisme, si vous voulez, que des formes de conviction suffisamment fermes pour engendrer des acteurs convaincus de leur supériorité, de leur bon droit, de leur force, etc. Et ça, c'est le genre de choses que les convictions de type religieux peuvent, en l'occurrence, procurer assez facilement. Donc, oui, ça, une des raisons d'être tenté par la religion, c'est aussi ça.
Merci beaucoup, Jacques Bouvresse.
Je vous en prie. Merci à vous.
C'était le philosophe Jacques Bouvresse, auteur de Peut-on ne pas croire, un livre sur la vérité, la croyance et la foi publié aux éditions Agone. Vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.grenouille888.org.